Salut guys, bienvenue encore une fois à l'argent, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que atteindre la liberté financière, ça fonctionne de manière concrète. Eh oui guys, donc la liberté financière, quelque chose que beaucoup de gens rêvent de, mais 99,9% des gens ne vont jamais atteindre parce que ils sont pas prêts à put in the work, comme qu'ils disent en bon anglais. Everybody wants to shine, nobody wants to grind. Hein? Tout le monde veut shine, tout le monde veut atteindre, tout le monde veut devenir quelqu'un, mais personne veut mettre le travail. Donc qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte que des gars comme moi, des gars comme toi ou des filles comme toi qui sont prêtes à mettre le travail, c'est votre opportunité d'atteindre vos objectifs parce que il y a pas beaucoup de compétition. La majorité des gens sont sur leur sofa en train d'écouter Netflix au moment où on se parle. Hein? Au moment où est-ce que vous écoutez ce podcast, vous êtes déjà un step avant tout le monde. C'est quoi une liberté financière? OK? Une liberté financière, tu sais, tout le monde sait c'est quoi en gros, mais on va rentrer aujourd'hui plus en détail de comment ça fonctionne en immobilier pour de vrai. OK? Tout le monde sait qu'une liberté financière, ben oui, tu sais, c'est tu as plus de revenus que de dépenses. Hein? Tu as plus de revenus passifs en immobilier que tu as de dépenses. Fait que si, mettons, tu as une maison, un char, carte de crédit, puis ça te coûte 5 000$ par mois, ben pour être libre financièrement, faut que tu fasses 6 000$ par mois avec l'immobilier. Mais de façon concrète, c'est plus difficile que juste faut que tu fasses 6 000$ puis que tu ailles 5 000$ de dépenses parce que il faut que tu ailles l'argent pour pouvoir acheter les immeubles qui te font 6 000$ de revenus. OK, donc il y a deux stratégies d'attaque en investissement immobilier. OK, la première, c'est justement investir pour du cash flow. Cette manière-là est la plus longue et la moins rentable, selon moi. Encore une fois, on parle de, selon Corey Albert, un jeune homme de 21 ans, entouré de millionnaires et de billionnaires qui lui ont dit pas mal la même chose, mais bref. Hein? La stratégie cash flow, c'est la stratégie que tout le monde connaît. Okay? Je connais beaucoup d'investisseurs aussi qui utilisent la stratégie cash flow et qui ont beaucoup de succès. Par contre, je vous explique. L'affaire avec stratégie cash flow, c'est que tu as besoin d'attendre beaucoup de temps. Faut que tu économises ton argent, right? Et il faut que tu travailles, faut que tu aies un bon salaire parce que il faut que tu t'économises de l'argent pour pouvoir te permettre de faire du cash flow comme ça. Et tu sais, mettons là ton. Tu sais, moi, j'achète juste du multilogement, tout le monde le sait. Stratégie cash flow, c'est beaucoup, beaucoup utilisé pour les petits plex, OK? Les gens qui achètent des multilogements, d'habitude, n'utilisent pas la stratégie cash flow pour atteindre la liberté financière, mais les gens qui, plus amateurs, que je dirais qu'il n'y a rien de mal à être amateur, qui achètent des triplex, des chalets locatifs, des Airbnb, mais c'est eux qui optent pour la stratégie numéro un, qui est la stratégie cash flow. Eux, ce qu'ils font, c'est que, ben c'est ça, ils se ramassent de l'argent, ils trouvent des façons de faire de l'argent, donc soit qu'ils font du flip pour se ramasser un capital, soit qu'ils se pognent une job, soit qu'ils économisent leur argent, etc. Et ça prend du temps parce que là, mettons, t'économises 100 000 $. OK? T'économises 100 000 $ pour acheter un immeuble qui te cash flow, mettons, 700 $ par mois. OK? Mais là, le problème avec ça, c'est que ça t'a coûté 100 000 $ pour faire seulement 700 $ par mois. Donc, non seulement faut que tu reprennes ton 100 000 $ right? Tu sais, c'est bien beau de dire, oh, je fais 700 $ par mois. Ouais, mais t'avais 100 000 dans ton compte que t'as plus, là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, tu as échangé 100 000 $ pour 700 $ de cash flow. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu as échangé 100 000 $ pour 700 $ par mois. Honnêtement, tu sais, je préfère avoir le 100 000 $ puis acheter un multilogement puis augmenter ma valeur nette, qui est la stratégie numéro 2 qu'on va parler dans quelques instants. Et là, ce qu'ils font, c'est ça. Ils mettent 100 000 $ et ils font 700 $ par mois. Mais là, vous comprenez que pour atteindre le 6 000, non seulement ça vous en prend beaucoup de 100 000 $, fait que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'économies, ça prend une bonne job, ça prend bla bla bla. Ça, c'est la stratégie numéro 1. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que cette stratégie-là est moins forte. C'est moins une bonne structure parce que du moment où est-ce que ton immeuble, il y a plus d'argent à débourser parce qu'il y a une réparation, mais là, tu te fais avoir dans ton cash flow. Fait que t'es comme pris, puis t'es comme pris parce que il faut que t'ailles faire les rénos toi-même. Tu sais, ça vient tout de là, là, ce mindset-là. T'es pris à aller rénover les immeubles par toi-même parce que tu veux pas tu veux pas manger de ton cash flow qui te fait vivre. Right? Fait que là, t'es comme victime, t'es comme prisonnier de tes propres investissements. C'est comme ça que j'aime ça appeler ça. T'es prisonnier de tes propres investissements. Alors que l'immobilier, c'est censé te libérer de ton temps et te donner une liberté financière et une liberté de temps surtout, ben, toi, dans le fond, tu viens de t'emprisonner dans tes immeubles. Fait que là, t'avais 100 000 piastres pour acheter un bloc qui te fait 700 piastres par mois, mais c'est toi qu'il faut que tout le temps qu'il aille, c'est tout le temps toi qu'il faut qu'il répare les affaires, c'est toi qu'il faut qu'il fasse tout, et t'es prisonnier. Ben là, tu t'en achètes un deuxième, ben là, t'es prisonnier de deux blocs, puis ça finit plus. Puis c'est là que tu finis par vendre tes immeubles à un gars comme moi. Ça, c'est la stratégie 1. La stratégie numéro 2 s'appelle la stratégie de la valeur nette. Moi, j'ai un mentor qui vient de Longueuil qui m'avait déjà dit, je pense que j'avais 20 ans l'année passée, on avait fait un coaching privé un à un, puis il m'a dit, Corey, t'as 20 ans là, ok? Il m'a dit ça, là, le gars il a des centaines de portes à Longueuil. Là. Il m'a dit, Corey, t'as 20 ans là, ton but c'est pas de faire du cash flow pour payer tes restaurants. Ok? On va se dire tout de suite, ton but, Corey, c'est pas de faire 10$ par mois ou 100$ par mois pour amener ta mère au restaurant tous les dimanches. Ton but c'est de te bâtir un parc immobilier qui va te donner la liberté financière, mais encore beaucoup plus forte pour que tu aies non seulement une liberté financière, mais une liberté de temps. Je l'ai dit dans mes podcasts précédents, la chose la plus importante dans la vie, c'est notre temps. C'est notre temps, ça ne s'achète pas du temps. Donc, la stratégie valeur nette, ce que c'est qu'au lieu de focusser sur faire de l'argent à tous les mois, tu focuses sur augmenter ta valeur nette. Parce que c'est en ayant une valeur nette élevée que tu vas pouvoir quitter ta job et que tu vas pouvoir aller en chercher des emprunts. Right? Parce que, oubliez pas là, qu'il y a deux games. Tu sais, je l'explique tout le temps à mes étudiants, quand ils viennent dans mes formations, ils capotent bien raide, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Mais il y a deux types de prêts. Il y a le financement résidentiel, puis il y a le financement commercial. Dans le financement commercial, guys, n'oubliez pas qu'ils ne regardent pas votre salaire. C'est pas votre salaire qui est important. Ils regardent vos liquidités, votre force financière, votre valeur nette, votre capacité de réinjection, etc. Votre équipe, hein? Il y a qui dans l'équipe? C'est ça qu'ils regardent. Ils ne regardent pas c'est quoi ton salaire. Fait que pour te bâtir un parc immobilier, en fait, pour devenir libre financièrement et une liberté de temps, il faut que tu te bâtisses un parc immobilier. Pour te bâtir un parc immobilier, il faut que tu achètes du multilogement. Puis pour acheter du multilogement, il faut que tu aies une grande valeur nette. Est-ce que vous comprenez? Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de se dire, bon, ben, mon bloc que j'achète, il fait 700 pièces par mois, ben, toi, tu vas le réhypothéquer, tu vas le refinancer pour diminuer le cash flow, mais reprendre les liquidités. Fait que moi, je préfère avoir un bloc qui fait 100 pièces de cash flow par mois. Après, il paye toutes les dépenses du bloc, là, toutes. 100 pièces de cash flow par mois, plus 100 000 piastres dans mon compte qu'un immeuble qui cash flow 700 piastres par mois. Parce que avec ce 100 000 $-là de plus que j'ai dans le compte que toi, t'as pas, parce que tu fais 700 piastres de cash flow, moi, j'en fais 100, ben moi, je vais en acheter un autre. Je vais en avoir deux. Deux immeubles que leur hypothèque descend, deux immeubles qui prennent de la valeur dans le temps, deux immeubles qui me font du cash flow et deux immeubles que je fais du rendement sur leur valeur. Et fait que là, vous comprenez que là, moi, je suis rendu avec deux immeubles, tandis que toi, t'en as un. Là, je fais la même chose avec l'autre, avec le deuxième. Je réhypothèque. Là, j'en achète un troisième. Je me bâtis, jusqu'à temps que tu vales 1, 2, 3, 4, 5 millions. Tu sais, j'ai parlé avec un gars de Toronto il y a pas longtemps. Je nommerai pas de nom. Mais le gars, il me disait, tu sais, Corey, tu penses petit, là. Tu penses vraiment petit, là. Il m'appelle, il dit je t'ai vu sur TikTok, j'ai vu dans le live. Bref, le gars a beaucoup de succès. Là, s'il habite à Toronto, je pense que ça parle pour soi-même. Il investit en immobilier. Il me parlait de 60 logements, 50 logements, 55 logements. Puis il me dit, Corey, tu penses trop petit. Là, je dis, qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Mettons, on l'appelle Jacob. De quoi tu parles, Jacob? Il me dit, Corey, pourquoi tu achètes des 6 logements? C'est bien trop petit. Fait que tu sais, comprenez là que moi je dis que des triplex c'est trop petit, puis d'acheter du 6 logements, puis lui il me dit que du 6 logements c'est trop petit. Oh my god, j'aime ça, du monde qui me pousse. Vous voyez l'importance de qui t'entoure? Tu comprends l'importance de où est-ce que, avec qui tu tiens? Parce que si j'aurais jamais rencontré cette personne-là, moi je serais resté dans le 6. Tu sais, lui il me disait, écoute, à Toronto, là, tout le monde est millionnaire. Tu sais, Corey, tout le monde a 1 million, 2 millions, c'est pas grand-chose. Mais tu sais, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux comme, tabah, ouais, c'est rien, 1 million quand tu y penses, là. Tu sais, pour du monde qui veulent avoir un succès, un potentiel de liberté financière, c'est rien, 1 million. C'est rien. Fait que ton but, c'est d'augmenter ta valeur nette pour que, une fois que tu vaux beaucoup, parce que les banques, là, quand ils te prêtent de l'argent dans le multilogement, ils regardent, OK, si, mettons, Corey n'est pas capable de nous repayer, c'est quoi qu'on va aller chercher pour pouvoir repayer notre prêt qu'on lui a donné qui n'est pas capable de nous payer? Ils s'en foutent de ta job. Hein? Ils vont faire quoi avec 2 000$ par mois de salaire, 3 000$, 4 000$, 5 000$ par mois de salaire? Eux, ils veulent quelque chose qui vaut de l'argent, de l'immobilier. Ils veulent que tu aies des immeubles dans ton actif qui peuvent aller chercher si jamais tu n'es pas capable de les repayer. Fait que là, ce qu'ils font, la banque, ce qu'elle fait, c'est que dans le multilogement, prêt commercial, elle va te prêter puis elle va regarder ta valeur nette. Fait que dans le fond, elle va venir s'agripper à ce que tu vaux. Fait que mettons, tu vaux 1 million, ben, si elle te prête 1 million, ça ne dérange pas parce qu'elle sait que si tu leur payes pas ce million-là, ben elle va juste aller rechercher tous tes immeubles qui valent 1 million. Versus le gars qui investit avec la stratégie 1 du cash flow, tu peux pas faire ça. Parce que dans le prêt résidentiel, vous allez voir, les banques considèrent les triplex comme des mauvais investissements. Quasiment, ils considèrent ça comme des dettes. Ils considèrent ça comme, tu sais, ils prennent 50% des revenus, mais 100% des dépenses. Fait que ça fait en sorte là que t'achètes ton premier triplex, c'est correct, OK. Là, tu vas aller acheter ton deuxième, ça va être encore plus dur à cause que t'as déjà un triplex qui est considéré, entre parenthèses, comme une dette selon la banque dans du prêt résidentiel. Là, mettons, tu vas passer pour le deuxième, oublie le troisième. Là. Majorité du temps, oublie le troisième, à moins que tu aies vraiment un bon salaire, oublie le troisième parce que t'as deux immeubles qui sont de la dette selon la banque. Multilogement, c'est le contraire. Chaque immeuble que t'achètes t'aide à en acheter un autre parce que t'as de la valeur nette sur l'immeuble. Une valeur nette, c'est quoi? C'est que, mettons, ton immeuble vaut 1 million puis que t'as 500 000 de dette dessus. Ben, ta valeur nette, c'est 500 000. Ton équité, c'est 500 000. Fait qu'une valeur nette, c'est tes actifs moins tes dettes. Ça fait ton équité. Fait que si t'as 5 immeubles multilogements qui ont 500 000 d'équité, ben 500 000 fois 5 immeubles, ça fait 2,5 millions d'équité. Là, fait que là, tu comprends que dans la stratégie numéro 2, c'est beaucoup plus facile d'augmenter ton parc immobilier quand tu investis pour du rendement. Et là, qu'est-ce que tu fais? Bon, on parle liberté financière. Comment que ça fonctionne? T'sais, ben là, tu as une valeur nette, tu as des immeubles. À un moment donné, il faut que je paye mes dépenses, hein, vous allez me dire? Exact. Donc là, ce que tu fais, c'est qu'après avoir bâti ton parc immobilier de 20, 30, 40, 50, 60 immeubles, même 5 immeubles, 2 immeubles, peu importe, c'est toi qui vas le savoir, dépendamment de tes investissements, ben toi, tu vas tous les appartenir dans ta corporation. En passant, si vous voulez vous créer des corporations, j'en parle dans mes formations sur l'immobilier. OK, faites juste, il faut que vous compreniez que vous allez vous créer une corporation, puis tous les immeubles que vous allez acheter, que vous allez refinancer, puis que vous allez augmenter votre valeur nette avec, tout le cash flow qu'ils vont faire va remonter dans votre compagnie. Ils vont remonter dans votre compagnie. Et là, de votre compagnie, vous allez vous verser un salaire de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000 par année, 800 000, 1 million, peu importe. C'est comme ça que tu deviens libre financièrement. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, là? C'est que, avec la stratégie numéro 2, t'as une grande valeur nette, OK? T'es puissant financièrement aux yeux des banques, aux yeux des créanciers. Tu fais du cash flow, t'as beaucoup d'immeubles, t'as du volume, OK? Les riches, ils savent là, que ça marche au volume. La richesse, ça marche au volume. Faut que t'aies un plus grand volume. Fait que là, au lieu d'avoir deux triplex qui font 350$ par mois, t'as 10-12 logements qui te font, peu importe, 1000$ par mois, plus de l'argent dans ton compte de banque, plus une grande valeur nette. Là, tout l'argent remonte dans ta corporation, dans ton entreprise. Et là, de cette entreprise-là, tu te verses un salaire. Fait que c'est comme si tu travailles pour ta propre entreprise. Mais tu ne travailles pas véritablement dans ta propre entreprise. Donc, guys, c'est un podcast très compliqué. Je te réinvite à l'écouter parce que c'est des nuggets d'or que je t'ai donné. Je te donne un petit recap de ce qu'on a parlé. On a parlé qu'il y avait deux façons d'atteindre la liberté financière. La première façon, c'est la stratégie cash flow qui est, selon moi, pas la meilleure façon à utiliser. C'est plus amateur, plus risqué. Petit, hein? Quand tu commences à jouer petit, c'est risqué, guys. Là, t'sais, le monde, il pense que plus j'achète grand, plus c'est risqué. Non. Si t'as une porte, là, t'es risqué pas mal. Hein? Le gars, il paye pas, le gars, ici, t'es fini, là. Right? Fait que plus que tu joues dans le volume, plus t'atténues ton risque. Parce que, tu sais, moi, mettons, je suis en train d'acheter ma 21e porte. Ben, s'il y en a un qui part, 1 sur 21, c'est correct. Mais 1 sur 1, c'est pas correct, là. Fait que la première stratégie qui est cash flow, qui est d'acheter, mettons, d'économiser ton argent, acheter un triplex à 100 000 de mise de fonds ou à peu importe, là, dépendamment de combien de pourcentage tu mets, pour l'échanger contre 700 pièces de cash flow qui va te prendre du temps, va te prendre des économies et ça va te prendre un bon job, comme tout le monde parle. Ou, tu as la stratégie numéro 2, qui est la stratégie valeur nette, qui est la stratégie que les investisseurs immobiliers élites utilisent et qu'on m'a transmis. Guys, je le dis tout le temps, je ne réinvente pas la roue, là. Je suis pas là à dire « Hey, c'est moi le maître ». Non, je réinvente pas rien pantoute. Je fais juste vous communiquer les insides que moi j'ai en étant investisseur immobilier puis en m'entourant de gens qui ont du grand, grand succès. La façon numéro 2, c'est ta valeur nette. Donc, ton but, c'est d'augmenter ta valeur nette, de réhypothéquer le cash flow en dette pour que tu aies moins de cash flow parce que ton hypothèque est plus chère, right? Plus que tu réhypothèques ton immeuble, plus que tu as de dettes, plus que tu as de dettes, plus qu'elle te coûte cher par mois. Fait que c'est de réhypothéquer ton argent, avoir de la dette et avec cette dette-là, t'enrichir en achetant un autre, en refaisant la même chose, repeat, rinse, repeat, rinse, repeat, rinse, repeat. Ensuite de ça, tu as un gros volume d'immeubles, de logements qui te font du cash flow envers ta corporation, ton entreprise, ton incorporation, ta Inc., peu importe comment tu l'appelles, ta compagnie immobilière. Et de ta compagnie immobilière, qui appartient beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes, tu te verses un salaire à toi personnellement. Et mesdames et messieurs, vous avez atteint la liberté financière. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Si l'investissement immobilier, ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, mais surtout, passer à l'action, clique sur le lien en description. Tu vas pouvoir prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour savoir si on est capable de t'aider ou non. Je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche ou les trois petits points pour activer les notifications de ce podcast parce que honnêtement, tu veux pas rater aucun épisode parce que l'argent, ça n'existe pas. On se revoit dans le prochain.
De la famille H2O Web Media.